Chaque parole qui est lue nous va tous dans le cœur. Et ça a toujours quelque chose à nous dire. Et quand j'entends les frères lire la parole de Dieu et écoute ce qu'ils disent, alors j'ai qu'une seule pensée. Si tous recevaient la parole comme moi, si elle allait dans les cœurs comme elle va dans mon cœur, et chaque phrase, chaque verset nous touche profondément et nous occupe, nous touche. Bientôt, nous verrons un mouvement de Dieu dans nos cœurs et parmi nous. J'étais ici alors que le frère Rousse parlait, je crois que c'était aujourd'hui. Pour moi, à chaque fois, c'est une baume. Les paroles de Dieu peuvent être parfois sévères, dures. Mais quand on revient au fondement et qu'on creuse, on retrouve l'amour éternel de Dieu. Et si Dieu annonce avec dureté le jugement, alors on découvre quand on vient à lui son amour et sa grâce. Et tout a un sens et un objectif. C'est-à-dire de nous amener là où il veut nous avoir pour que nous puissions atteindre le but. Les malices de l'ennemi consistent à ce que, la malice de l'ennemi consiste à ce que tout ce qui vient de Dieu, il faut l'enterrer, l'enfouir, le remettre en question, semer du doute pour que l'incrédulité, soit récoltée. Et s'il réussit à le faire, nous avons affaire alors à un combat dans lequel il nous implique. Et nous pouvons remarquer comment cela est rapide, peut être rapide, que des gens sont impliqués dans une chose sans qu'ils le devaient, seulement parce qu'ils ont prêté l'oreille à l'ennemi. Alors quelqu'un dirait, mais je l'ai jamais rencontré, moi, l'ennemi. Mais peut-être que il a rencontré les gens sans que les gens l'aient remarqué. Ça dépend de savoir qui parle par qui. C'est qui parle quand quelqu'un parle. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous allons voir que c'est la malice de l'ennemi. D'abord, de décrédibiliser et ensuite de frapper là où il voit le plus grand danger pour ses intentions. Ça, chacun le ferait. On n'a pas besoin de en vouloir au diable pour cela. Mais Paul dit que nous avons discerné ses intentions et nous savons à qui nous avons affaire dans 2 Corinthiens. Et ces pensées-là m'occupent depuis ce matin, alors qu'un frère me disait, écoute, il a été remis en question que frère Branham aurait vraiment confirmé tel que tu l'as dit. Comme ça, à peu près. Et je pense à cela. Pas à cause de moi. J'ai pas besoin de confirmation. Car cette confirmation existe déjà dans le monde entier en tant que témoignage vivant. Mais comme ça peut arriver rapidement que l'ennemi exprime une phrase et elle peut être ainsi exprimée. Mais est-ce que tu étais présent quand frère Branham l'a dit? Est-ce que ça a vraiment été ainsi? Et qu'il a vraiment dit ça? Et déjà ces gens ont affaire à un conflit, à un combat intérieur, ils sont impliqués dans des choses, et si ce n'est qu'ils discernent les machinations de l'ennemi, de Satan, sinon ils auront beaucoup de difficultés à en sortir. Mais il y a une chose qui est certaine, que vous devez savoir. Personne connaît mieux la Bible que l'ennemi de Dieu. Et personne depuis le commencement a utilisé les Écritures comme lui. Plus que lui. Alors qu'il était venu avec Ève, il n'est pas venu avec ses propres paroles. Il a pris la parole de Dieu. Et il a un peu renversé sur la tête. Et ensuite, il a redonné. Mais bien, mes frères et sœurs, je ne suis pas ici pour parler dans mes propres affaires. Si je devais le faire, je resterais à la maison. Mais quand il s'agit des affaires de Dieu, des choses de Dieu, alors je me prends tout droit de les défendre avec tout ce qui est en moi. Et vous savez que Dieu a donné un dernier message. Et que ce dernier message doit être apporté à tous les, doit être connu par tous les peuples. Et quand il s'agit de la confirmation à l'époque, alors que j'étais allé à visiter frère Branham en 62, vous savez que autrefois j'ai apporté encore aujourd'hui avec moi l'édition, le magazine plein de lumière, plus de lumière. Donc, à la première page du premier trimestre de 1963. À l'époque, déjà, mon témoignage a été redonné par ce journal à la première page. Et assez de gens, déjà, depuis 1963, auraient eu assez de temps du vivant de frère Branham de lui poser la question et de poser la question aussi aux témoins qui étaient présents. Plus de lumière. Ici, voilà, ma photo à la première page, une expérience extraordinaire. Et tout l'article sur toute la première page du journal en 63. Tous ceux qui étaient affligés d'un peu de doute auraient pu avoir la possibilité, pendant des années de demander même à frère Branham lui-même et pour se convaincre eux-mêmes de la véracité du témoignage. Je l'ai apporté avec moi aujourd'hui, j'ai même pas nécessaire de le faire. Parce que comme j'ai déjà dit, je parle pas dans mes propres affaires. Mais si des gens sont apportés dans un conflit, alors je pense que c'est à sa place d'exprimer quelques paroles d'éclaircissement. Il y a un autre point qui est utilisé à cela et on dit, et ça c'est parfaitement correct, d'abord, il faut qu'à la maison, dans la famille de cet homme, les choses soient en ordre. Et ça, de tout mon cœur, à 100%, je dis oui et amen à cela. Mais quand nous considérons que nous vivons dans un âge prophétique et que l'adversaire, l'ennemi, vraiment, commence là à frapper là où ça fait le plus mal. Et je voudrais mentionner deux choses du domaine de la famille de frère Branham. Lui, en tant que prophète de Dieu, il a dû vivre la douleur de l'âme que son fils Billy, sans son accord, se mariait et que ensuite il s'est laissé, il a divorcé et que pour la deuxième fois, il s'est remarié. Il s'est marié. Et je connais sa première femme, je connais sa deuxième femme. Et le fils de frère Branham, Joseph, duquel il disait, toi mon fils Joseph, tu seras un prophète du Seigneur. Que Dieu soit remercié de ce que frère Branham n'a plus vécu cela. Quand Joseph a divorcé. Et plein de choses se sont passé. Personne sur terre aurait pu s'imaginer que cela pourrait arriver. Et les gens auraient pu venir avec droit et taper à la porte du prophète et dire, mais écoute, alors, et Comment est ta propre famille? Les pharisiens ne sont pas encore tous morts. Hein? Il y en a qui vivent encore. Mais que cela soit remarqué, que Joseph s'est réconcilié avec sa femme et que, tant que je le sache, maintenant, ils vivent ensemble. J'ai fait que mentionner cela pour vous montrer que l'ennemi ne s'arrête pas. Il frappe là où il peut. Mais quand les croyants, eux aussi, frappent, alors moi, je vous pose la question, de quel côté alors ces croyants se tiennent? Oui. Si les croyants, eux aussi, frappent, alors je pose la question pour la deuxième fois, de quel côté alors ils se tiennent? Un homme qui est vraiment né de Dieu, il ressent profondément, avec les douleurs de son frère, de ses frères et de ses sœurs, la douleur et les problèmes d'un frère et d'une sœur, et ton problème et ta douleur. Et là, nous avons la parole. Bénis les affligés, car ils seront consolés. Matthieu 5, verset 4. Et alors que j'étais encore seul, plusieurs pensées me sont venues et je disais, oh Seigneur, que cela puisse vraiment encore venir rapidement, ce temps. Si quelqu'un, par exemple, dit à l'autre, je t'aime, que cela soit vrai, que cela soit vrai, que cela soit vraiment véritable dans son cœur, de toute son âme, tel que nous le prononçons dans notre bouche. Et si quelqu'un dit à l'autre, frère, je te soutiens, que cela soit aussi ainsi, que Dieu puisse compter sur nous et nous compter les uns sur les autres, que un pour tous et tous pour un soit là pour soutenir et que nous puissions former parmi son peuple, comme c'est écrit dans la Bible, une union divine, une unité. Je pense que Dieu va l'accorder par sa grâce. Et je m'excuse, ces remarques. Quelle parole merveilleuse nous avons déjà entendue. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Qui a reconnu son dessein et qui a été son conseiller? On a lu ça dans Ésaïe. Bien sûr, quand Deutéronome 30 a été lu, j'ai dû penser à la prophétie qui est déjà écrite dans Deutéronome 4. Laissez-moi vous lire ça. Deutéronome chapitre 4, verset 27. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où l'Éternel vous emmènera. Et là, vous servirez des dieux, ouvrage de main d'homme, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel, ton Dieu, et que tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Au sein de ta détresse. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à l'Éternel, ton Dieu. Et tu écouteras sa voix. En allemand, tu obéiras à ses ordres, à ses commandements. Car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Ils n'étaient pas dans la possibilité d'obéir aux instructions du Seigneur et de mettre sa parole en pratique. Il y a une pensée qui ici, de manière prophétique, en comparaison à l'Église et qui appartient à l'église en comparaison à sa place ici avec l'église. Et la chose suivante, est-ce que c'est pas aussi le chemin de l'église du Nouveau Testament? Est-ce qu'elle n'a pas été dispersée dans toutes les dénominations, dans tous les peuples qui existent sous le ciel? Et ensuite, Dieu parle et dit, le jour arrive où tu retourneras à l'Éternel ton Dieu et tu écouteras sa voix, obéiras à ses instructions. Quand de tout ton cœur et de toute son âme, tu te retourneras, tu reviendras à moi, tu te convertiras à moi. Je pense que ça, c'est ton histoire, mon histoire, c'est notre histoire. Tel que Dieu, avec le peuple d'Israël, en tant que nation, faisait l'histoire du salut, c'est ainsi qu'il fait l'histoire du salut avec son peuple, qui, n'est-ce pas, de tous les peuples, les langues et les nations, a été appelé à sortir et est sauvé de toutes les nations. Oh, avant cela, dans Deutéronome 4, verset 10, il est écrit ici, Deutéronome 4, verset 10, « Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel. » Ici, une parole importante. « Ton Dieu, à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre. Et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. Vous vous approchâtes et vous vous tintes au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées et de l'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure. Vous n'entendîtes qu'une voix. Ici, dans ce contexte ici, je voudrais relever qu'il est écrit « Assemble auprès de moi le peuple ». C'est simplement merveilleux le verset 10. Que l'Ancien et le Nouveau Testament sont en accord et que Dieu suit son chemin qu'il a tracé pour son peuple, avec son peuple, selon son plan, et que tous les événements historiques du salut s'inscrivent dans ce plan divin de salut. Et nous avons la grâce d'être une partie de ce plan. Ici, il est dit, tel que nous l'avons entendu dans Deutéronome chapitre 30 au verset 2. Deutéronome 30 verset 2 maintenant. Si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera en corps du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. On pourra encore continuer à aller à partir du verset F. Même ce commandement. Donc, verset 4. Quand tu seras exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, etc. Et puis ensuite, concernant les commandements, sont pas hors de ta portée, ce n'est pas dans le ciel, verset 12, 13, ce n'est pas de l'autre côté, verset 14, c'est une chose au contraire qui est auprès de toi. Ensuite, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre tout le ciel et la terre. J'en prends aujourd'hui à témoin contre tout le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie, etc. Lisons encore dans Romains 15 et dans d'autres écritures. Romains 15, verset 30. Ici, il est écrit, Romains 15, verset 13. Romains 15, verset 13, pardon. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Ensuite, le verset 16. le verset 16, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, en allemand pour les païens, je m'acquitte du divin service de l'évangile de Dieu afin que les païens lui soient une offrande agréable à Dieu, étant sanctifié par l'Esprit Saint. Agréable à Dieu. Service de l'Évangile, ici en allemand, exerçant la sacrificature dans l'Évangile. Ici, pour moi, il s'agit que les croyants deviennent une offrande agréable à Dieu étant sanctifié par le Saint-Esprit. Jésus-Christ, en tant que fils de Dieu, s'est livré lui-même à Dieu comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur, saint, pour que l'Église appelée à sortir, l'Église rachetée, se tienne là comme une offrande pure et sanctifiée. Et là, n'est plus valable ce que toi et moi nous pouvons produire, mais ce que Dieu est capable de produire en nous, pour nous sanctifier par son Esprit. Tel que dans la foi nous nous faisons confiance, il produira en nous cela, et nous serons une offrande qui lui sera agréable, étant sanctifiée par le Saint-Esprit. Ça, c'est mon souhait, et ça, c'est ma prière. Que cela soit le but et l'objectif de l'annonce, de la prédication du message divin à la fin du temps de la grâce. Que une épouse digne, qui plaît à Dieu, qui est agréable à Dieu, qui est pure, qui est sainte, qui est fidèle, soit conduite à l'épouse, à l'époux, sans tache, sans ride, irréprochable, lavée dans le bain de la parole de Dieu, sanctifiée dans la parole de la vérité. Et comme il est écrit ici, sanctifiée par le Saint-Esprit, est une offrande agréable à Dieu, étant sanctifiée par le Saint-Esprit, dans la parole de la vérité. J'aimerais lire ici dans Romains 15, verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, en allemand, par l'amour que l'Esprit produit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Combattre avec moi. Ce grand apôtre, avec un ministère puissant divin, qui a eu le privilège de voir la colonne de feu, d'entendre la voix audible de l'Éternel et de voir la lumière, il n'a pas apparu dans sa propre assurance, mais comme il est dit aux Corinthiens, avec tremblement et crainte. Et ici, il demande aux croyants même, il dit, je vous exhorte, frère, par notre Seigneur Jésus-Christ et par moi. Il dit, en allemand, avec empressement. Le mot empressement n'est pas écrit ici en français. Je pourrais vous dire la même chose. Avec empressement, donc, pour vous exprimer l'importance de la profondeur de mon âme, je vous prie, vous tous, bien le frère, combattez avec moi, soutenez-moi dans l'amour de Dieu que le Saint-Esprit produit en nous tous, dans la prière et dans la supplication, pour que ce mandat divin soit accompli et que l'Église du Dieu vivant puisse être visitée avec les dernières bénédictions, reçoive les dernières bénédictions les plus grandes que Dieu ait pu déjà donner. Mais pour cela, ce soutien dans la prière est nécessaire. Et si les frères, l'œuvre de Dieu ne peut pas toujours la porter par la prédication ou bien la partager par la prédication. Mais il n'y en a personne qui peut pas prier. Il n'y a personne qui peut pas prier. Personne. Chacun peut prier. Et ici, Paul dit, je vous demande expressement, pas seulement je vous exhorte, mais je vous demande expressement, frère, en allemand. Donc, ça veut dire que le combat divin était dur. Alors, ce n'est pas seulement un échange léger de coups comme ça, Mais ça allait à la chose principale même. Et là, il faut que les armures fortes, puissantes de Dieu soient utilisées. Ici, je vous demande expressément, bien mes frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour que l'Esprit de Dieu produit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. En ma faveur. Ça, c'est peut-être le chemin. Et on pourrait dire, frère Franck, comment tu parles de tes propres choses? Tu parles de tes propres affaires. Donc si je le fais, ça veut dire que Paul aussi l'a fait autrefois. Non, nous ne sommes pas des insensés. Ou alors, nous sommes tous tombés. Nous devons nous tenir tous comme un seul homme. Mais pas dans un amour fabriqué ou bien propre. Mais dans l'amour divin que le Saint-Esprit produit. Et ce que le Saint-Esprit produit est selon la parole de Dieu et est d'origine divine. Et c'est pas un amour qui commence aujourd'hui et qui cesse demain. C'est un amour qui a jamais commencé et qui ne cessera jamais. Et il est écrit, les prophéties cesseront, la connaissance cessera, tout cessera. Mais l'amour ne cessera jamais. Donc nous voulons aussi recevoir cette parole dans notre cœur. Et il y a une parole encore dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, verset 7. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 7, il est écrit, « Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse. » 1 Corinthiens 2, verset 7. Hier soir, j'ai mentionné cela, que nous ne tenons pas, donc nous ne donnons pas des conférences sur Dieu, mais que nous faisons que prêcher les choses de Dieu. Et cela est écrit ici, voilà. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Ce qui était caché, Dieu l'a révélé. Et Paul écrit que si l'évangile reste caché, que nous prêchons, ça veut dire qu'il reste caché pour ceux qui se perdent. Et c'est ainsi. Pour ceux qui périssent, c'est ainsi. Si les choses qui sont prêchées par la révélation prophétique, s'ils restent cachés, donc ils restent cachés et voilés pour ceux qui périssent. Mais ceux qui sont déterminés au salut, ces choses leur seront révélées. Alléluia, amen. C'est ainsi que c'est, et c'est ainsi que c'était autrefois, et c'est ainsi que c'est encore aujourd'hui. Ne pensez pas que au moins du monde, quelque chose aurait changé. L'incrédulité était autrefois telle qu'elle est aujourd'hui, et la foi est aujourd'hui telle qu'elle était autrefois. Et auprès de Dieu, rien n'a changé. Encore aujourd'hui, nous disons, nous prêchons encore la sagesse de Dieu mystérieuse qui était cachée, mais Paul l'a prêchée. Et frère Branham a fait la même chose. Nous parlions aussi du semeur et de la semence. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 10. De Corinthiens 9, verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Alléluia. Hier, nous avons lu de Jacques chapitre 3, verset 18, que le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. En allemand, qui produisent la paix. Et ici, nous avons lu que il fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Il vous fournira aussi et il multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Deutéronome, 2 Corinthiens 9, verset 10. Qui désire cela? Qui est touché par cela? Qui aspire à cela? Est-ce que, mes bien-aimés, Dieu a pu atteindre nos cœurs par sa parole? Est-ce que nous avons entendu sa voix? Est-ce que nous avons compris ce que cela veut dire? Et quel privilège c'est que Dieu dans ces jours parle avec nous dans un langage clair. Pas dans une fantaisie religieuse, mais des paroles véritables de Dieu ont été adressées au peuple de Dieu dans ces jours. Et nous n'avons pas besoin d'ajouter quelque chose à ce qui a été dit. Nous voulons non plus rien retrancher. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 13, au verset 11, il est écrit, 2 Corinthiens 13, 11. Au reste, frères, laissez-vous guider, en allemand, redresser, reprendre, accepter les remontrances, la correction, l'avertissement, ayez un même sentiment, vivez en paix. Alors, le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Ça, ce sont des paroles véritables de Dieu. Voilà le texte allemand. Un frère qui se ne laisse pas reprendre, redresser, mais est toujours seulement occupé à vouloir reprendre les autres. Il n'a pas encore compris lui-même qu'il est écrit que ce n'est pas un frère qui enseignera l'autre, mais qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Et ça, je vous le dis aujourd'hui. Si chaque frère avait retransmis la parole de Dieu telle que Dieu l'avait révélée, sans ajouter sa propre interprétation et sans en tordre le sens, encore aujourd'hui, il y aurait une église merveilleuse, visiblement unie sous une tête. Mais l'église doit passer par cette tempête, par ces vents, alors que la chorale chantait. Je pensais à ce que le Seigneur a dit d'autres fois dans la parabole de Matthieu 7, verset 24. Celui qui a bâti sa maison sur le roc et de l'autre, concernant l'autre qui a bâti sa maison sur le sable. Les vents ont soufflé et les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Mais l'autre n'est point tombé. C'est pas la maison qui était la surface visée, mais le roc sur lequel elle était bâtie. C'est pas la maison qui a fait la différence. Et le roc, c'est la révélation de Jésus-Christ. Et si par la grâce de Dieu, nous avons bâti notre maison spirituelle sur ce roc spirituel, alors que même le diable et toute son armée et se jettent sur nous, le Seigneur dit, les portes du ciel des morts ne pourront pas contre elles. Alléluia! Ça, nous le croyons de tout notre cœur, par la grâce de notre Dieu. Cela aura lieu. Et par la grâce de Dieu, nous subsisterons devant notre Dieu. Ensuite, dans Philippiens, au chapitre 4, à partir du verset 6, il est écrit. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs. Et alors la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et toutes vos pensées en Jésus-Christ. Toutes vos pensées. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Cette parole, nous voulons aussi la recevoir dans notre cœur. Que dans la prière et la supplication, avec des actions de grâce, nous puissions apporter toutes nos requêtes devant la face de Dieu. À chaque fois, quand il est parlé de ça, que le temps va vers sa fin, et aussi que tous, nous avons encore des parents et des personnes que nous portons dans le cœur. La famille et tout ça. Alors, tout notre être intérieur est mouvementé. Ici, le chemin nous est montré. Pas par l'inquiétude et encore moins par des arguments. Mais, comme il est écrit ici, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Parfois, je me suis surpris à avoir faire connaître mes besoins à des hommes, ce que j'avais comme ça dans le cœur et ce qui me touchait. Faire connaître mes besoins. Et j'ai décidé que les choses que seulement Dieu peut changer, que je puisse seulement les apporter devant Dieu. Car c'est seulement lui qui peut changer la situation. Et là, alors qu'un bien-aimé frère m'avait écrit une très gentille lettre, donc à plusieurs pages, entre parenthèses, entre guillemets, gentille lettre, et il me disait à la fin, j'attends ta réponse sans délai. Et vous savez ce que j'ai fait. C'était justement le moment où cela a été clair pour moi. Avec aucun homme, tu ne parleras plus des choses que Dieu seul est capable de changer. Tu le diras seulement à ton Dieu. Amen. Merci. Et j'ai pris le téléphone. J'ai appelé ce frère et je lui ai dit, ici, je voulais, avec ce coup de téléphone, te donner ma réponse. C'est-à-dire, c'est la suivante, que je ne répondrai pas à ta lettre. Et vous pouvez vous imaginer comment est-ce que les choses alors sont. Mais c'est comme ça que ça doit être dans le futur. Personne ne sera secouru. Aucun homme. En disant des choses à quelqu'un que lui ne peut pas changer. Notre secours vient de Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et ainsi nous mettons notre confiance seulement et entièrement dans le Seigneur. Mais tel que Paul ici, laisse pas se tourner aux frères et a dit, priez pour ma faveur, pour moi, en commentant pour moi. On a lu dans Romains 15, verset 30, pas des conseils, pas des discussions, pas donner des conseils, pas des entretiens, mais ce qui est valable devant Dieu, ce qui peut atteindre son trône, c'est-à-dire des prières qui viennent du plus profond du cœur, là où il s'agit des choses et de l'œuvre de Dieu. Là, il exaucera, il répondra et il accordera sa bénédiction. De Colossiens, chapitre 1, je lis le verset 8, Colossiens 1, verset 8. Et il nous a appris de quel amour l'Esprit vous anime. Il nous a appris de quel l'Esprit vous anime. De l'amour produit par l'Esprit, dont vous êtes animé. Je voudrais pas continuer à lire. Ici, Paul parle, il a entendu parler de l'amour produit par l'Esprit de Dieu dans le cœur des croyants. Qu'est-ce que nous voulons aujourd'hui atteindre avec ce sujet? Nous devons reconnaître la différence entre ce que des hommes en tant qu'amour désignent, en tant qu'amour, en tant que conversion désignent, que des hommes désignent en tant que nouvelle naissance, ce que des hommes désignent en tant que baptême du Saint-Esprit, et entre comme ce qui existe encore comme sujet, et entre ce que Dieu, dans sa parole, vraiment nous dit. À quoi est-ce que ça me sert si je parle d'amour, de l'amour, et que c'est un amour que je porte dans la poche de ma veste, et qui est utilisé, je l'emploie comme j'en ai besoin ou pas. Non, l'amour qui vient de Dieu est sans exception de personne. L'amour qui vient de Dieu a été manifesté sur la croix du calvaire à Golgotha. Dans le pardon, dans la réconciliation et la rédemption. Celui qui a l'amour de Dieu doit révéler ces attributs-là. Et celui qui les révèle pas par sa conduite, il n'a pas encore cet amour produit par l'Esprit de Dieu parce qu'il n'a pas encore expérimenté personnellement, étant déversé en lui par le Saint-Esprit. Donc pas seulement prétendre quelque chose, prétendre avoir quelque chose et avoir expérimenté quelque chose, mais vraiment ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est-à-dire la preuve qu'on est animé de l'amour de l'Esprit, cela doit devenir une partie intégrante de notre existence croyante. Mais bien aimé, aujourd'hui nous avions l'impression que Dieu veut parler d'autres personnes et que c'est ce que nous écoutons là, ça concerne d'autres personnes, ne sont pas concernées. Ça veut dire, alors si nous pensons comme ça, nous allons pas trouver nécessaire d'écouter ces prédications là. Mais si, et ça nous devrions être conscients et que cela soit clair pour nous, que Dieu dans ces jours, c'est à nous, c'est à son peuple qu'ils étaient présents quand cela a été prêché, ou bien que plus tard, ils écouteront ces prédications, qu'ils puissent comprendre que c'est Dieu qui, dans ces jours, parle avec nous. Si nous sommes conscients de ça, alors laissons-nous recevoir cela dans notre cœur, ce qu'il a à nous dire. Et c'est ainsi que, tel que nous sommes, nous voulons venir dans la prière devant sa face et dire, Seigneur, je ne suis pas encore ce que je devrais être, mais tel que dans la parole d'introduction de Deutéronome 30, nous avons entendu, dans ce temps-là, je vous rassemblerai de tous les peuples et je circoncirai vos cœurs et vous marcherez selon mes ordonnances et vous prêterez l'oreille à mes instructions. Si c'est le temps qui est arrivé pour ça, dans lequel Dieu, maintenant, de tous les peuples, les langues et les nations, appelle l'Église épouse à sortir du Seigneur, alors que le temps soit là, le temps de la circoncision spirituelle. Et j'espère que personne ne comprend ça mal, mais vous savez tous que sous Josué, avant qu'ils entrent dans le pays de la promesse, de nouveau une circoncision a eu lieu. Car tous ceux qui étaient nés pendant le voyage sont restés sans être circoncis. À quoi est-ce que ça leur servait d'avoir toutes les grandes promesses et tout le beau pays de Canaan s'ils étaient restés incirconcis et que par cela ils se tenait à l'extérieur de l'alliance de Dieu. Alors la circoncision a dû avoir lieu. Et déjà, maintenant, ils ont oublié Gilgal. Et ils ont pu aller de l'avant dans la foi. Que cela puisse plaire au Seigneur. Mettre dans nos cœurs une circoncision. Par l'épée tranchante de sa parole. Que toutes les choses soient découpées. Qui n'ont pas leur place dans notre vie. Et qu'ils ne sont pas en accord avec la parole de Dieu. Et que nous puissions comprendre que seulement un peu de levain fait lever toute la pâte. Celui qui, dans les années passées, a observé cela, comment est-ce que les mères, justement, prenait encore ce levain, cette pâte levée, et l'arrondissait bien et la pétrissait pour qu'elle puisse être bien grandir et croître et grossir plus tard. Nous pourrions prendre encore et bien traiter la pâte levée et l'arrondir. Non, faites-la sortir. Il faut que ce soit une nouvelle pâte. Beaucoup ont pris beaucoup de choses avec leurs mains. Ils les ont pétris, arrondis, travaillés et présentés. Et ils pensent que c'est ce qu'on a prêché au peuple de Dieu. Que cela sort, tout le levain, le vieux levain sort. Et que nous puissions devenir une nouvelle pâte par la grâce de Dieu. Pour qu'il puisse avec nous aller de l'avant. Et que nous puissions ensuite voir les dernières choses que nous attendons de notre cœur qu'il a promises. Et que par conviction, nous avons le droit de croire à cette chose. Oh, loué soit Dieu pour sa parole précieuse que aussi ce week-end nous avons entendu. Cela a eu beaucoup à me dire. Et j'espère que cela sera avec nous tous, tel que c'est avec nous ici sur la plateforme. Et que la parole de Dieu ne revient pas sans effet, mais qu'elle produit l'effet pour lequel elle a été envoyée. Et ça, Dieu l'a promis. C'est pour ça que nous n'avons pas besoin même de prier pour ça, car le Seigneur a dit, dans sa majesté, dans sa souveraineté, il a dit que la parole qui est sortie de ma bouche ne reviendra pas à moi sans effet, si ce n'est qu'elle ait exécuté ce que je voulais, ce que j'ai voulu. Alléluia. Exécuter les choses pour lesquelles je l'ai révélé, je l'ai envoyé. Dieu se tient dans sa parole et sa parole aussi dans ses jours produira l'effet pour lequel elle a été envoyée. Nous voulons comme première chose nous laisser apporter en accord avec sa parole, avec lui et avec sa parole, pour qu'elle puisse ensuite produire en nous les choses pour lesquelles elle a été envoyée. Loué soit son Saint-Nom. Amen.